Puis on trouve un autre nom fondé sur cette révélation de Yahvé, c'est dans Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Alors bien évidemment, avant de faire une simple copier-coller, c'est important de lire ce verset dans son contexte. Donc, livre d'Exode, Dieu est en train d'établir son alliance avec Israël après les avoir fait sortir d'Égypte. Donc, il dit, je vous ai montré que je vous ai choisi pour mon peuple. J'établis une alliance avec vous. Voici les règles de mon alliance avec vous. Mais ce qui est clair, c'est que dès le moment de leur départ d'Égypte, le cœur d'Israël n'a pas réellement changé. Et dès le moment de leur départ d'Égypte, maintes et maintes fois, donc, ils ont cette tendance à se rebeller contre Dieu. C'est derrière le contexte, donc, de cette révélation. Je suis Yahvé Rapha, le Dieu, l'Éternel qui guérit. Verset 24, donc juste avant de le révéler. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Si on ne se connaissait pas nous-mêmes, on aurait tendance à croire que le peuple d'Israël est incroyable, n'est-ce pas? Ils viennent de vivre ce miracle de la sortie d'Égypte contre toute attente, de voir là Dieu qui ouvre la mer devant eux, qui engloutit toute l'armée du Pharaon sous les vagues derrière eux. Et encore, ils sont capables de se plaindre et de dire, « Oh, mais franchement, le plan de Dieu, c'est un peu nul. Hein. Je ne serais pas venu si j'avais su qu'on allait se trouver sans notre nourriture préférée et sans nos boissons. » Et donc, dans ce contexte, Dieu leur rappelle ce qui vient de se passer en Égypte. Il dit, mais vous avez la mémoire bien courte, vous. Vous avez oublié que vous avez crié vers moi et que moi je suis intervenu. Vous avez déjà oublié toutes les plaies que j'ai envoyées contre l'Égypte pour qu'ils acceptent de vous libérer. Vous pensez que vous êtes vraiment en position de vous plaindre contre moi? Rappelez-vous ce qui vient de se passer. Rappelez-vous ce que je fais contre ceux qui résistent à mon plan. Donc, si vous voulez vivre comme mon peuple, si vous acceptez d'être mon peuple dans mon pays, alors vous n'aurez plus besoin de craindre, vous n'aurez aucun besoin de craindre les conséquences de la désobéissance. Obéissez et vous n'allez pas subir la même chose que les Égyptiens. Mais vous découvrirez au contraire que je suis l'Éternel qui vous guérit. C'est ça le contexte de cette révélation. Alors si cette révélation veut dire cela au peuple d'Israël, est-ce que ça veut dire que pour nous, c'est une révélation qui est sans importance, qui ne s'applique plus à nous? Ben, on doit toujours se rappeler que cette révélation est donc liée au nom de l'Éternel. Je suis Yahvé Rapha. Et donc, c'est une révélation du caractère de l'Éternel, caractère de « je suis » à tout moment de l'histoire. Et donc, en tout temps, Dieu rappelle qu'il est celui qui guérit son peuple. Mais non pas parce que nous l'avons mérité. Là, c'est là où on trouve la différence et l'importance de placer ce verset dans le contexte. Si on fait une simple copier-coller, on dit « Ah ben si, Je ne désobéis en rien. Si j'applique toute la loi de l'Éternel, je ne serai pas malade, mais Dieu sera le Dieu qui me guérit. La Bible nous met en garde en disant, bah, suivre cette logique-là, pour vous en tant que chrétien, c'est très dangereux. Galates chapitre 3, verset 10. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tous ceux qui veulent mériter quelque chose de la part de Dieu en disant « Regarde comme je suis bien, regarde comme j'observe la loi », tous ceux-là sont sous la malédiction de l'apôtre Paul. Car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique ». Le problème de prendre de tels versets et de dire ben voilà, cette promesse est pour moi si je suis suffisamment obéissant, c'est que il est au-delà de nos forces d'être suffisamment obéissant. Il est impossible. C'est justement ce que la loi est censée nous faire comprendre, que nous ne pouvons pas être à 100% obéissant et parfait aux yeux de Dieu. Galates 5, verset 3, j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire pour dire, voilà, j'obéis à la loi. Il dit, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Si vous voulez dire que ce verset veut dire, si j'obéis suffisamment, je serai guéri, ben, trouvez-vous un bon médecin rapidement, parce que jamais vous serez capable d'obéir parfaitement, tout le temps, à la loi entière. Mais si vous voulez dire que c'est ce que veut dire ce verset, c'est à cela que vous vous engagez, dit l'apôtre Paul. Donc, le contexte fait que Dieu dit à Israël, vous voulez vivre sous mon alliance, voici les conséquences. Vous voulez sortir de mon alliance, voici les conséquences. Mais pour nous, nous savons que Dieu est toujours l'Éternel qui guérit, mais que nous, nous sommes appelés à vivre dans le contexte de l'Alliance nouvelle en Jésus-Christ. Et donc, pour tous ceux qui sont en dehors de cette alliance précise de Moïse avec Israël, cette guérison dépend non pas de notre obéissance, mais du caractère de l'Éternel, et doit être vécu comme une grâce. Dieu, qui est le « Je suis », qui est Yahvé Rapha, est capable de nous faire une grâce, mais ça reste toujours une grâce. Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, nous guérit, nous dit la Bible, avant tout spirituellement. Même plus que nous guérir, il nous ressuscite spirituellement. Vous qui étiez morts dans vos péchés, il vous a rendu à la vie. Ésaïe 53, verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Parce qu'il a été blessé pour nous sauver de nos péchés. Mais, puisque Dieu est Yahvé Rapha, le Dieu qui en tout temps peut guérir, il peut aussi nous guérir physiquement. Pour cela que la guérison faisait tellement partie des signes du ministère de Jésus, du ministère des apôtres. Et aujourd'hui encore, on peut être convaincu que Yahvé Rapha peut encore faire des miracles en faisant grâce à qui il veut faire grâce. Mais cela ne veut pas dire qu'il est obligé de toujours faire des miracles. Sinon, le miracle ne serait plus miraculeux, ce serait le quotidien. Mais c'est un miracle quand Dieu intervienne. La Bible nous le montre de manière évidente que Dieu ne guérit pas toujours. Parlant parfois de même des grands hommes de Dieu, voici, il était malade de la maladie par laquelle il est mort. Nous voyons que nous n'avons plus l'apôtre Paul parmi nous, nous n'avons plus les autres apôtres, nous n'avons plus les grands personnages de l'histoire de l'Église. Ces personnes sont mortes et attendent le jour de la résurrection. Parce que cette promesse « Je suis Yahvé Rapha » est d'actualité pour nous tous, dans la mesure où Dieu nous a fait la promesse de la résurrection aussi, physique, non pas simplement spirituelle, mais que nos corps terrestres vont être guéris un jour et rendus parfaits comme le corps de résurrection de Jésus-Christ. À ce moment-là, Dieu va nous guérir de manière éternelle et la maladie n'aura pas le dernier mot sur nous. Si nous attachons à ce que nous révèle la Bible, le moment où un corps est placé dans une tombe, ce n'est pas que la maladie a eu le dernier mot. La maladie croit avoir eu le dernier mot. Certaines personnes croient que la maladie a eu le dernier mot sur cette personne. Mais la réalité, c'est que si nous endormons en Jésus-Christ, la maladie n'a pas gagné. La maladie n'a pas eu le dernier mot. Mais comme lorsque Jésus a dit à propos de Lazare, il dort, mais je vais aller le réveiller. Cela reste aussi le cas pour nous. On dort, mais Jésus dit, je vais le réveiller avec le son de la dernière trompette, parce que Dieu reste Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Même si cela veut dire le jour de la résurrection. Puis Exode, chapitre 17, verset 15. Je suis Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière, Yahvé Nissi. C'est l'histoire donc du combat avant qu'Israël entre dans le pays promis, lorsque Moïse lève le bâton devant Dieu. Et tant que Moïse lève le bâton, Israël est en train de gagner la bataille. Quand il commence à voir les bras qui se fatiguent un peu, c'est l'autre armée qui commence à gagner. Donc, on lui tienne les bras pour qu'il garde le bâton élevé devant Dieu. Ben, à la fin, Moïse reconnaît par cet autel qu'il construit que la victoire, finalement, a été gagnée par Dieu et non pas par eux. On peut vous dire. Normalement parlant, juste tenir un bâton dans l'air ne fait pas gagner une guerre à une armée. Moïse dit, c'est l'Éternel qui a gagné. C'est l'Éternel, ma bannière. Il est donc le Dieu, puisqu'il ne change pas, il est en tout temps. Il est le Dieu qui, si nous lui faisons confiance, nous donne la victoire dans nos différentes situations. Comme pouvait dire Paul, dans 1 Corinthiens 15, 57, « Grâce soit rendue à Dieu, ce Dieu qui porte le nom de Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu est capable de nous donner la victoire si nous lui faisons confiance. Ça veut dire si nous faisons suffisamment confiance de le suivre en appliquant ses méthodes à lui, en faisant ce que lui, il nous dit. Cela ne veut pas dire que gagner la victoire avec Dieu est toujours chose facile. Si on pouvait demander à ces soldats ce jour-là qui ont combattu avec Josué contre l'armée ennemie, même si Moïse avait le bras levé avec le bâton, le combat n'était pas plus facile pour autant. C'était rude comme combat. C'était difficile, fatigant comme combat. Mais Dieu a donné la victoire. C'est comme dans ses lettres au début de l'Apocalypse, où le Seigneur dit à l'Église, « À celui qui vaincra, je donnerai toutes ces bénédictions. » Mais la Bible nous montre que seule manière pour nous de vaincre, c'est de compter sur Yahvé ici. L'Éternel, ma bannière. Restons dans l'Exode, chapitre 31, verset 13. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est comme ça qu'on reconnaîtra que je suis Yahweh Mekadesh, l'Éternel qui vous sanctifie. Le principe, dans ce contexte, est le même que ce que nous trouvons dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16, qui nous dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Dieu dit au peuple d'Israël, observez ma loi, observez le sabbat, montrez que vous êtes un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple qui ne vit pas comme les autres peuples autour de vous, et ainsi on verra que je suis Yahweh Mekadesh. Votre vie sera le témoignage de qui je suis. On verra à travers vous que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est l'Éternel qui vous sanctifie et cela devrait se voir dans notre vie. Mais si justement ça vient de lui, si c'est parce que lui il est saint, parce que lui il est l'Éternel qui vous sanctifie, ces moments où nous désespérons presque de notre nature propre dans nos combats contre le péché, qu'on se ramasse encore une fois et on se dit « mais c'est pas possible que je sois encore tombé comme ça », cela nous encourage et nous réjouit le cœur parce que nous nous rendons compte « mais finalement, je peux connaître la victoire ». Parce que non seulement il est Yahweh Nissi ma bannière, mais il est aussi Yahweh Mekadesh, l'Éternel qui me sanctifie. Passons maintenant dans le livre des Juges. Juges chapitre 6, verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur, Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix, Yahweh Shalom, l'Éternel notre paix. Gédéon avait peur, il dit, mais moi je ne peux pas voir face à face l'ange de l'Éternel. Je suis un empêcheur, je ne peux pas, je vais mourir. Dieu dit, ne t'inquiète pas, car je suis ta paix qui te permet de me voir. C'est comme Paul le souligne dans le début de Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'Éternel dit à Gédéon, ne t'inquiète pas, tu peux être dans ma présence, tu peux me voir face à face sans mourir, car je suis ta paix. Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez me voir, vous pouvez vivre dans ma gloire, dans ma présence. Car je suis Yahweh Shalom, je suis ta paix qui te permet d'être en paix avec moi et donc de ne pas craindre, de ne pas avoir peur d'entrer dans ma présence. Jérémie, chapitre 33, verset 14. Autre révélation fondée sur ce nom de l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. Voici comment on l'appellera Yahweh Tzidkenu, l'Éternel, notre justice. Alors ces versets que je viens de lire devraient faire sonner des cloches pour ceux qui ont suivi les études bibliques récemment. Parce que justement la dernière fois, parce qu'on est en train de traverser le livre d'Ésaïe, la dernière fois on a vu justement ce terme, le germe de l'Éternel, et on a vu que donc c'est un terme qui parle du Messie à venir. Et donc, Dieu dit, ce jour-là, je ferai éclore à David un germe de justice et on l'appellera l'Éternel, notre justice. C'est cette promesse que Dieu fait, premièrement aux Juifs, mais accessoirement aussi, heureusement pour nous, aux non-Juifs, de nous justifier par ce germe de David, ce Messie né de la famille de David, dont il est question en Romains 3, versets 21-22. « Mais maintenant, dit Paul, sans la loi est manifestée quoi ? La justice de Dieu. Justice à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction pour juifs comme pour non-juifs. Il est notre justice. Le nom de ce germe de David sera l'Éternel, notre justice. Yahweh, Tzidkenu. Autre prophète maintenant, Ézéchiel, chapitre 48, verset 5. Sur la limite de Manassé, de l'Orient à l'Occident, il y aura une tribu. Et c'est là que je me rends compte que j'ai noté le mauvais verset. Ce n'est pas 48. Voilà, c'est 47. Ézéchiel 47, verset 5. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau était si profonde. Il fallait y nager. Non, c'est pas 47 non plus. Non. Où est-ce que j'ai noté ça? Pourtant. J'ai dû taper sur le mauvais, la mauvaise touche. Mais c'est donc verset annonçant la nouvelle Jérusalem. C'est pour ça que j'avais dû tromper là. Qui parle de cette nouvelle Jérusalem où Dieu sera là, où l'Éternel sera au milieu de son peuple. Donc, où Dieu dit, son nom sera Yahweh Shama. L'Éternel est là. L'Éternel est là au milieu de cette ville de la nouvelle Jérusalem. Et quand on entend cette promesse des mesures qui sont prises dans cette ville. Donc, et Dieu annonce, je serai là, dans cette ville. Ben, à ce moment-là, donc, nous nous rendons compte que ça correspond à la même promesse que nous avons dans le Nouveau Testament. Parce que nous avons donc... Pardon.
35.
Ah, 35.
Le chapitre 48, le tout dernier verset, 35.
Ah ben voilà. C'est là ma faute de frappe. C'est donc 48, verset 35. Donc, mesure de la ville, et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel. Et là, l'Éternel est ici. Merci pour la référence. Dieu sera là au milieu de cette ville. À la fin de l'Apocalypse, nous avons la même promesse. Il n'y aura pas besoin de lumière, il n'y aura pas besoin de temple dans la ville, car l'Éternel sera là avec son peuple. Nous avons donc aussi, puisqu'il est Yahweh Shammah, puisqu'il est l'Éternel qui est là, nous avons cette assurance aussi que Dieu est là avec nous en tout temps, en toutes circonstances. C'est pour ça que l'Esprit de Yahweh Shammah vient vivre en nous en tant que chrétiens. Pour qu'en tout temps, on peut dire le nom de ce lieu d'habitation de Dieu, c'est l'Éternel est ici. Yahweh Shammah. Puis on connaît bien le psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger. Il est Yahweh Roi, mon berger. Quelque part, ça découle du nom précédent. L'Éternel est là avec nous. Non seulement Dieu nous accompagne, mais si nous sommes prêts à suivre, Dieu aussi nous guide. Proverbes 3, 5 et 6. Confiez-vous en l'Éternel. Ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse, mais reconnaissez-le dans toutes ses voies, dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. Et puis, verset 4 du psaume 23 nous dit qu'en tant que berger, il prend soin de nous. Nous pouvons compter, nous pouvons être en paix autour de Yahweh Roi, parce que son bâton nous rassure. Ésaïe, chapitre 1, verset 24, encore un lien avec nos études bibliques, on a vu, il est également Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Dieu dit au peuple d'Israël dans ce premier chapitre d'Ésaïe, « Revenez à moi, arrêtez de pécher contre moi, reconnaissez que je suis Yahweh Sabaoth, je suis l'Éternel des armées, je suis le juge. » Et la Bible nous dit que le Seigneur va revenir un jour avec les armées d'anges pour être juge de toute la terre, pour en finir avec ceux qui se rebellent contre lui. Quelque part donc, si notre Dieu est Yahweh Sabaoth, on n'a rien à craindre. Jésus pouvait dire à Pilate, « J'ai rien à craindre de ta part. Si mon Père le veut, il peut envoyer des légions d'anges. » pour me secourir. Donc, moi, je n'ai pas peur devant toi, car je connais Yahweh Sabaoth. Nous aussi, nous pouvons faire confiance à lui. On n'a rien à craindre, si ce n'est Yahweh Sabaoth lui-même. S'il est l'Éternel des armées, il commande notre respect, puisqu'il est le Tout-Puissant. Et puis, il y a un dernier nom dans la Bible qui découle de ce fondement de Yahweh, de l'Éternel. C'est le nom Yeshua, qui veut dire l'Éternel sauve. Matthieu chapitre 1, verset 21, « Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus, car il sauvera son peuple. » Ce nom que nous connaissons sous le nom de Jésus est simplement une adaptation du nom dans le texte grec du Nouveau Testament, Jésus, qui est simplement une adaptation du nom hébreu, Yeshua, qui découle aussi de ce fondement Yahweh et qui veut dire l'Éternel sauve. Quelle grâce de connaître l'Éternel qui nous sauve, l'Éternel qui nous donne la paix, l'Éternel qui nous justifie, l'Éternel qui nous sanctifie. Pour cela que lorsque on se rend compte de qui est notre Dieu, ça découle tout facilement de notre cœur qu'on se réjouit en lui. Parce qu'il est notre Dieu, il est celui qui nous sauve, qui nous justifie, qui nous donne la paix, qui nous sanctifie, qui nous guide, qui nous accompagne, qui nous qui combat pour nous et nous donne la victoire, qui nous guérit et qui pourvoit à nos besoins, et qui est là avec nous parce qu'il est. Dis-leur que je suis celui qui suis. Je n'ai pas besoin de dire plus, dit l'Éternel. Je suis celui qui suis. Il est avec nous ce matin. Il est en nous, autour de nous. On a lu en introduction ce psaume 9 qui dit « Je ferai de toi le sujet de ma joie ». Je propose justement que nous prenons quelques moments pour louer